Bonjour Jacqueline, elle arrive juste après l'indicatif.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur IDFM Radio en FM sur la fréquence 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier sur notre appli. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques et ce matin, c'est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver jusqu'à 11h dans ce nouveau numéro de l'économie en direct. Aujourd'hui, mardi 11 avril, focus sur ces actrices et acteurs économiques qui, à partir de leur expérience, ont décidé de s'engager au niveau local vers une autre façon de penser précisément l'économie. Pour en parler, quatre invités. Régis Franchetot. Bonjour Régis.
Bonjour, bonjour Jacqueline.
Vraiment ravie de vous accueillir ce matin dans nos studios, Régis.
Merci.
Alors vous êtes le directeur de l'ESAT de l'ARME, AR2ME, établissement et service d'accompagnement par le travail, qui fête dans quelques jours ses 40 ans. Avec vous, nous découvrirons cet établissement qui accueille des travailleurs en situation de handicap. Une entreprise à part entière qui possède plusieurs pôles d'activité et dont vous nous expliquerez le fonctionnement. À vos côtés, Livia Valin. Bonjour Livia.
Bonjour.
Livia, vous êtes étudiante à l'université de Cergy-Pontoise, jeune volontaire de service civique qui a intégré l'ESAT et nous avons hâte d'en savoir plus sur votre mission. À vos côtés, Angélique Godet. Bonjour Angélique.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue dans l'économie en direct. Angélique, vous êtes chef d'entreprise de Cosmétanges, fondatrice et dirigeante de cet établissement qui produit notamment des savons saponifiés à froid à base d'eau thermale d'Enghien-les-Bains, mais pas que. Et c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Une économie de l'économie sociale et solidaire engageant du personnel en situation de handicap. Vous nous direz comment est née cette entreprise. Et je suis sûre que nous allons avoir un débat passionnant en vous écoutant.
Merci.
À vos côtés, Delphine Gray. Bonjour Delphine.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse de vous recevoir à nouveau dans nos studios. Delphine, vous êtes productrice et gérante de Burnout Prod, spécialisée dans les vidéos et photos. Avec nous ce matin, dans un esprit de totale solidarité vis-à-vis de trois athlètes valdoisiens de haut niveau sur la route des JO 2024. Car la vie de certains athlètes n'est pas un long fleuve tranquille et c'est ce que nous allons découvrir avec vous. Merci à tous les quatre de participer en direct. Ah oui, j'ai oublié de présenter. J'ai Rémi à côté de moi qui accompagne Angélique. Bonjour Rémi. Donc merci à tous les quatre de participer en direct dans cette émission et bienvenue sur IDFM Radio dans l'économie en direct. Avant de vous donner la parole, nous avons notre instant saveur avec notre expert en recettes faciles et délicieuses, Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Alors Bruno, je suis certaine que vous avez beaucoup cuisiné pendant ce week-end de Pâques. Aurions-nous droit à un aperçu de vos exploits ?
Oui, tout à fait, je vous rassure. Alors justement aujourd'hui, je vous propose une recette qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai trouvée dans un petit livre de Monique Maine qui s'appelle « Cuisine pour toute l'année » aux éditions du Livre de Poche. Et cette Monique Maine, c'est ma petite maman. Alors pourquoi cette recette me tient à cœur? Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a pas grand intérêt. Mais cette recette, ma maman la faisait dans notre maison de la Seine-sur-Mer, les jours de fête l'été, quand la table sur la terrasse était prête dès 10h du matin, que le soleil commençait à taper dur, même sous les canisses. En cuisine, ça s'agitait grave. Alors cette recette, c'est le grand aïoli. Autant vous dire que c'est du boulot, mais rien de compliqué. Ce qui est long, c'est d'éplucher les légumes. Donc vous voyez, c'est pas vraiment sorcier. Alors on part pour une recette pour 8, parce que l'aïoli, c'est comme ça, dans le midi, on fait une grande tablée, on se met autour de la table et on se régale. Alors il vous faut donc 8 tronçons de dos de cabillaud, 1,5 kg d'encornet ou de sèche, 2 tomates, 1 verre de vin blanc sec, une quinzaine de carottes, 1 kg de pommes de terre, type grenaille, c'est parfait. Une demi-pomme de terre cuite dans sa peau, ça c'est facultatif, je vous expliquerai pourquoi. 8 patates douces, des petits artichauts, 5-6, 8 œufs durs, 2 jaunes d'œufs, 1 demi-litre d'huile d'olive, 1 kg d'haricots verts, des bulots, vous en prenez tant que vous voulez, 16 tranches de pain rassis, 2-3 betteraves, 9 gousses d'ail, un oignon, du thym, du laurier, du sel et du poivre. Alors on commence. Dans un mortier, j'ai la chance d'avoir un vrai beau mortier, c'est qui vient justement de la maison de la Seine. Alors moi j'ai fait ça dans un vrai beau mortier, mais on peut le faire dans un bol classique. Dans un mortier, vous pilez 9 gousses d'ail, vous ajoutez les 2 jaunes d'œufs, le sel et le poivre. Vous mélangez et incorporez peu à peu l'huile d'olive, comme si vous montiez une mayonnaise. Et là, vous laissez l'aïoli en attente. C'est prêt, vous le mettez au frigo, vous dites ça ne bouge plus. Par grande chaleur toutefois, c'est là où je disais que c'était facultatif la pomme de terre, par grande chaleur, ajoutez au jaune d'œuf une demi-pomme de terre cuite dans sa peau, épluchée et écrasée. Ça évite de tourner. Vous faites enlever l'encre des sèches par votre poissonnier, vous les lavez et ôtez le cartilage. Vous coupez les sèches ou les encornets en lanières et vous les faites cuire une vingtaine de minutes à petit feu dans une cocotte avec les tomates pelées, épépinées et coupées, 2 gousses d'ail, l'oignon émincé, le vin blanc, le thym, le laurier, le sel et le poivre et vous couvrez. Vous égouttez ensuite les sèches et vous faites réduire le jus de cuisson, pas beaucoup, d'un quart et vous remettez les sèches. Vous lavez tous vos légumes, vous les épluchez, donc c'est ça qui prend un petit peu de temps, sauf pour les pommes de terre grenaille, c'est pas la peine de les éplucher. Et vous les faites cuire à l'eau. Et à vous de surveiller la cuisson en piquant vos légumes avec la pointe d'un couteau. Si la lame s'enfonce facilement, c'est bon. Au moment de servir, vous les dressez dans un plat avec les œufs durs. Vous faites cuire vos morceaux de cabillaud soit pochés, soit à la vapeur, soit pochés au courbouillon hein, naturellement, soit à la vapeur. Et une fois cuits, vous les mettez sur un plat avec les bulots. Vous tenez le tout au chaud. Dans une soupière, vous délayez une cuillère à dessert d'aïoli et vous ajoutez les sèches et leur jus de cuisson et vous mélangez. Dans chaque assiette creuse, vous disposez 2 tranches de pain séché au four et tartiné d'aïoli. Ça commence à sentir bon, on entend les cigales déjà. Vous servez en premier les sèches dans leur bouillon, puis vous apportez le cabillaud, les légumes, les betteraves coupées en dés et en même temps le mortier d'aïoli. Oui, je sais, je vous avais prévenu, c'est du boulot, mais quel bonheur pour vos invités. C'est le vrai plat convivial où tout le monde prend ce qu'il veut dans les plats et on discute comme ça autour de la table. Les patates douces croisent les bulots qui s'entrechoquent avec les carottes. Oui, c'est une vraie fête sur la table et autour de la table, je vous l'ai dit. Et pour accompagner ce plat, un bandol rouge ou rosé, comme vous voulez. C'est en tout cas ce que mon papa servait. Et vous savez quoi, Jacqueline? J'ai fait ce plat, donc dimanche de Pâques à ma famille, et ma petite maman était là. Elle était très émue, car la dernière fois qu'elle en avait mangé, c'était sous les canisses, sous un beau soleil d'été, et j'ai même eu le droit à ses félicitations. Vous aussi tentez cette aventure, et vous ne le regrettez pas. Bon appétit, bonne cuisine à tous, et au revoir.
Bravo et félicitations Bruno, une recette qui fait bien sûr partie des incontournables en province.
En Provence.
Alors moi je vais vous aussi faire une confidence, ma maman qui est du sud aussi faisait l'aïoli, mais elle me disait on fait ça les jours de pluie parce qu'on n'a qu'une envie après, c'est d'aller dormir.
C'est vrai qu'on peut faire une bonne sieste après l'aïoli, oui.
C'est ça. Merci, à la semaine prochaine Bruno.
Oui, à la semaine prochaine, bonne émission à tous.
Merci, au revoir. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous parlons des dispositifs mis en place pour repenser l'économie vers un développement plus équitable. À mes côtés, Régis Franchetot, directeur de l'ESAD de l'Arme, qui fête dans quelques jours ses 40 ans. Lysia Valin, étudiante en deuxième année d'anglais à l'université de Cergy-Pontoise, jeune volontaire de service civique qui a intégré l'ESAD de l'Arme. Angélique Godet, fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une entreprise qui produit notamment des savons saponifiés à base d'eau thermale d'Enghien-les-Bains. Et Delphine Gray, productrice et gérante de Burnout Prod, spécialisée dans les vidéos et photos, avec nous ce matin pour nous parler des galères financières des jeunes athlètes en vue des JO 2024. Régis Franchetot, le monde est petit et je ne pensais pas un jour vous accueillir dans cette émission, j'en suis ravie. Alors, quelques mots peut-être sur votre parcours, Régis.
Merci Jacqueline. Ben oui, écoutez, le monde est petit, hein. On s'est déjà rencontré il y a plusieurs années.
Dans une autre vie.
Mon parcours, j'ai un parcours d'économie, dans l'économie d'entreprise. Et puis, il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai fait un petit virage et j'ai pris un virage sur l'humain. Et puis, j'ai allié l'humain et mon profil économiste pour diriger ce qu'on appelait un atelier protégé dans les années 2000. Et puis, après une formation, j'ai dirigé et j'ai dirigé trois ESAT. Alors, juste pour préciser ce qu'est un ESAT.
Vous poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'un ESAT?
Établissement et service d'aide par le travail. Mmh. Alors maintenant, on dit aussi accompagnement par le travail. C'est un dispositif qui existe depuis, pour faire un historique, l'État avait confié aux associations de solidarité dans les années 50, plutôt en fin des années 50, la gestion de la prise en charge des personnes handicapées. Se constituer des premiers CAT, Centre d'aide par le travail.
Oui, oui.
C'est pour ça que je fais cet historique.
Non,
et puis en 2005, et la loi, la grande loi sur le handicap, la loi du 11 février 2005, a redéfini ce qu'est un atelier protégé en entreprise adaptée, qui s'est versé dans ce qu'on appelait dans le milieu ordinaire, avec un pourcentage d'emplois de travailleurs handicapés. Et puis, les CAT ont été confirmés dans leur action médico-sociale, parce que c'est un établissement médico-social avant tout, et a été confirmé et ont changé la dénomination en établissement et service d'aide par le travail. Donc ça reste un établissement médico-social avec une double injonction. C'est-à-dire une injonction de la prise en charge des personnes en situation de handicap, handicap physique, sensoriel, psychique, l'économie, c'est-à-dire mettre les personnes en situation de travail. Et ce qu'on appelait, et ce qu'on va avoir tout à l'heure avec Lysia Valin pour la citoyenneté, c'est-à-dire reprendre dans la vie un travail, logement et une famille.
C'est le but.
Donc ça, c'est le but. Donc sur l'économie, c'est une entreprise économique à part entière et entièrement à part. Voilà.
C'est ça. Oui, puisque j'ai pu comprendre que ce sont des travailleurs qui ne peuvent pas travailler dans des structures ordinaires, qui sont dans les ESAT, mais qui ont reçu une vraie formation.
Ils ont une formation, ils, pour certains, vont acquérir une autre formation. Mmh. Mais l'ESAT, c'est un lieu de formation, mais aussi d'épanouissement.
Hein. Oui.
On s'épanouit par le travail. Le travail aussi, c'est un droit. Mmh. Hein, c'est un droit pour les personnes handicapées, comme pour les personnes valides, hein, puisqu'on fait la différence entre personnes valides et personnes handicapées. C'est un terme que je n'aime pas trop, parce que le valide, qui est valide et qui n'est pas valide. Ceci dit, les personnes handicapées retrouvent ici une forme de citoyenneté, puis surtout, dans l'aide de l'État qui est d'apporter aux personnes les plus faibles, les plus fragiles, une aide, ben là, c'est par leur travail qu'ils retrouvent aussi une citoyenneté et de reprendre une rémunération, de voir aussi des collègues, etc. Voilà, c'est la base de l'ESAT.
Hein, oui.
De l'ESAT.
Oui, parce que vous avez raison de dire que ce mot handicap finalement est réducteur, parce que ces personnes-là ont malgré tout de nombreuses compétences, et c'est plus ces compétences qu'il faut mettre en avant.
Bien sûr,
forcément.
Et les AT, si je puis dire, c'est un lieu de ressources. Hein, c'est un lieu de ressources où il y a des activités économiques, c'est aussi un lieu de ressources médico-sociales, mmh. Parce que l'apport et l'appui, nous, dans l'établissement que je dirige, les AT de l'Arme, nous avons tout à... Bon, on accueille 100%, on accueille 90 personnes qui sont ensuite en situation de handicap psychique. C'est-à-dire que leur passé, leur pathologie fait que... ils ont eu, pour certains, un passé dans le milieu ordinaire. La pathologie, c'est des pathologies assez lourdes, hein, la schizophrénie, des troubles psychotiques, font que le milieu ordinaire, quelquefois, c'est compliqué.
Ça peut être violent.
Ça peut être violent. Mm. Et donc, les AT est là pour les accueillir et les accompagner sur le plan d'accompagnement psychosocial. Mm. Hein, psychosocial. On a des psychologues, médecins psychiatres qui peuvent les accompagner sur leurs problématiques de santé mentale.
Très bien. Alors, quel type de travaux peuvent-ils effectuer ces personnes?
Tous les travaux, et on va s'adapter. Les ESAT, c'est des entreprises à part entière, puisqu'ils vont chercher aussi à trouver des activités qui vont pouvoir s'adapter aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on adapte le travail aux personnes et non pas l'inverse.
C'est ça. Ouais.
On recherche de la production, mais la production va s'adapter aux personnes que l'on accueille. Ça, c'est important, et ça, c'est dit. Et nous, on va avoir des activités qu'on va pouvoir adapté aux personnes. Alors, les grandes activités des CAT dans les années 50, 60, 70, c'était au pied des industries, et c'était ce qu'on appelait de l'emballage, de la sous-traitance industrielle la plupart du
temps.
Beaucoup
de papeterie.
Voilà, beaucoup de papeterie, d'imprimerie, voilà, pour ce qui était, du pliage, etc. Et puis, ça a évolué vers des activités de service. Bien souvent, les CAT ont, enfin, les ESAT ont cherché des activités qui pouvaient justement s'adapter aux personnes. Je parle par là, par exemple, de la blanchisserie industrielle, voire de la restauration. Et c'est ce qu'on a fait à l'ESAT de l'Arme en 2017, où on a ouvert un restaurant qui s'appelle Entre-deux, un restaurant inclusif, où on va ouvrir tout aussi bien aux personnes qui sont accueillies dans les AT qu'aux personnes qui sont dans la zone d'activité. Donc, c'est ça aussi. Et puis, on va avoir des cuisiniers, des anciens cuisiniers qui retrouvent le plaisir de faire leur métier, un métier adapté.
Bien sûr. Alors, rappelez-nous où se trouvent déjà les AT de l'Arme et puis le restaurant, l'Entre-deux.
Alors, les AT de l'Arme se trouvent à Saint-Leu-la-Forêt. Et à cheval sur la commune du Plessis-Bouchard. Et le restaurant L'Entre-deux se trouve juste à côté, à 50 mètres, au Plessis-Bouchard, sur la zone d'activité des Frères Lumière. Entre l'Entre-deux, pour l'adresse, il faut donner l'adresse pour pouvoir venir. Hein,
oui.
C'est ouvert du lundi au vendredi.
Il faut nous la donner.
Ah, oui, c'est 7 rue Théodule-Villeray, au Plessis-Bouchard. Voilà, et les AT est juste à côté. Et les AT aussi, il y a d'autres activités, des activités d'espace vert.
Oui.
Hein, avec des grands comptes, la SNCF nous fait confiance, Orange, ou des collèges et des lycées. Et puis des particuliers
des
également.
Particuliers, oui. Hein,
l'entretien de locaux, du multiservice, c'est-à-dire de la rénovation de bâtiments. Vous voyez, on a tout un corps d'État, plusieurs corps d'État pour apporter justement une offre aux travailleurs handicapés et puis même satisfaire après nos clients.
Bien sûr, bien sûr. Et donc vous dirigez ces deux établissements? par le fait, ou ça n'en est qu'un.
Ça n'en est qu'un.
Avec un restaurant ouvert au public.
C'est ça, tout à fait.
Qui est ouvert midi et soir.
Non,
seulement le midi.
Du lundi au vendredi, que le midi.
D'accord, ouais. Très bien.
C'est un restaurant d'entreprise.
Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Alors, vous avez évoqué ce mot de tout à l'heure. Vous avez dit insertion et puis inclusion. Aujourd'hui, je crois qu'on part plus d'inclusion que d'insertion.
On parle d'inclusion. L'inclusion, c'est le maître mot hein, sur. Pour que les personnes handicapées se retrouvent dans la société.
Peut-être en opposition à exclusion.
En opposition à exclusion, en opposition, je pense peut-être en complémentarité de ce qu'on appelait l'insertion. Hein. Maintenant, on n'insère plus, on inclut.
Oui.
Et être inclus, c'est vivre dans le monde, dans la société. Insertion, c'est essayer de se pousser et
oui,
de se mettre à côté.
Inclus,
on est inclus. On
c'est
vit
ça.
dans la société.
Oui, des mots qui nous concernent tous hein, et qui nous enrichissent les uns les autres forcément. Est-ce que vous au niveau du management, donc vous êtes aidé, Régis? Vous avez aidé des personnes?
Oui, on est aidé par une équipe pluridisciplinaire, des moniteurs qui accompagnent, qui sont les chefs d'équipe des travailleurs handicapés, qui sont des ouvriers à part entière, hein, et des moniteurs, une assistante sociale, des psychologues, j'ai dit, médecin psychiatre, et puis après toute l'équipe administrative, que ce soit du directeur au directeur adjoint. Nous sommes une vingtaine de salariés pour faire la différence avec les travailleurs handicapés qui, dans leur statut, étant un statut d'usager. Alors c'est un petit peu surprenant, mais voilà, le législateur a prévu que les personnes sont... on va dire usagers, mais au sens du code de l'action sociale et des familles, à l'inverse, à l'instar des personnes salariées qui sont l'équipe d'accompagnement qui sont du code du travail. Alors pourquoi cette différence? Justement, on reste sur l'accompagnement et que ces personnes ont besoin justement de trouver leur place dans la société. Voilà. Donc, s'ils étaient salariés, on partirait sur ce qu'on appelait l'entreprise adaptée.
C'est ça.
Hein, ce que j'ai expliqué auparavant, tout au début, où les personnes handicapées retrouvent un statut de salarié.
Alors, vous vouliez nous parler au sein de l'ESAD de la commercialisation. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce sujet?
Tout à l'heure, vous disiez que pour une personne qui est là parmi nous, que sommes de l'économie sociale et solidaire.
Oui, oui.
Et les ESAD, par nature, sont de l'économie sociale et solidaire.
Très bien.
Justement, alors donc, on travaille justement sur ces trois piliers. Hein. Le social, déjà, on emploie des personnes handicapées par le travail, l'économique, puisque on offre un panel d'activités économiques, et puis social et sociétal et environnemental aussi également sur l'approche de vivre dans son environnement, c'est-à-dire faire partie de la cité.
D'un tout. Forcément, dans ces lieux, il faut avoir des mises en conformité par rapport au handicap de vos salariés.
Bien sûr, oui, bien sûr, on a une exigence aussi, ce que j'expliquais de la part de l'État, puisque l'État nous a confié confié aux associations, juste pour parallèle, il y a 1500 ESAT en France.
D'accord.
Qui emploient 128 000 travailleurs handicapés.
Mmh.
Donc, vous voyez, le monde du travail protégé est assez important et qui est assez négligé,
négligé par les pouvoirs publics. Ou par l'environnement.
Plutôt par l'environnement, puisque c'est toujours l'inconnu. Les pouvoirs publics nous mettent assez la pression sur nos obligations, puisqu'on a de l'argent public et une partie du fonctionnement vient avec l'argent public. Et puis après, il faut faire de l'économique pour rémunérer les travailleurs handicapés, mais aussi pour se payer un outil de travail.
Bien sûr.
Parle du restaurant, où la rénovation d'un bâtiment a nécessité près de 900 000 euros qui ont été prises sur les fonds propres de l'association.
C'est ça, il faut qu'il y ait une vraie rentabilité.
Il faut qu'il y ait une rentabilité. Mm-hmm. Ou alors un retour, entre guillemets, c'est un gros mot peut-être, dans notre métier, un retour sur investissement.
Oui,
un retour sur investissement. Donc il n'y a pas de capitalisation, mais il y a derrière des exigences. Moi, je sur les espaces verts, nous avons des véhicules qui valent à pièce 50 000 euros. Donc, on a 14 véhicules. Il faut des engins, des gros engins, des tondeuses autoportées, des tracteurs, etc. Donc, voilà. Et tout cet argent, c'est pas l'État qui nous, mais c'est la force de travail des personnes handicapées qui va permettre de pouvoir réaliser une prestation auprès d'un client qui va payer le prix cette prestation. Mm-hmm. Et puis, il va falloir dégager la rémunération des travailleurs handicapés et un investissement, de l'argent pour l'investissement.
Oui, encore une fois, on sait que le handicap peut créer beaucoup d'a priori et puis même peut-être un sentiment de culpabilité. C'est pour ça que des fois, vous dites que vous êtes négligé.
Oui, alors il y a c'est encore cette en
de
France
en
le handicap
moins, mais...
le handicap est assez perçu sur les personnes en fauteuil roulant
hein. Oui,
et
oui.
On voit très bien que le handicap invisible hein, que ça soit psychique ou voire sensoriel est assez voilà, est assez mis de côté. Ce que je voulais aussi dire, c'est que les entreprises ont une obligation hein, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés,
oui, oui,
qui a été renforcée par la loi de 2021, sur lequel les entreprises doivent réaliser 6% de leur effectif avec des personnes handicapées et pour pouvoir aussi en faisant travailler un ESAT ou une entreprise adaptée diminuer leur contribution auprès d'État. Aujourd'hui, le taux d'emploi auprès des entreprises, des travailleurs handicapés, est de moins de 4%.
Ah oui, donc voilà. le contrat n'est pas rempli.
Le contrat n'est pas rempli. Mm-hmm. Et nous, les ESAT, on est aussi, en regard du milieu ordinaire des entreprises pour proposer des détachements en entreprise, pouvoir permettre aux personnes peut-être de se retrouver dans une entreprise comme un salarié à part entière.
C'est ça, donc vous faites de la prospection pour trouver ces entreprises.
On fait de la prospection, on a un moniteur chargé de l'insertion, pour de la formation, et qui est au regard des besoins de l'entreprise éventuellement pour une formation de la personne et pouvoir mettre la personne dans cette dynamique d'emploi futur.
Merci Régis Franchetot pour toutes ces témoignages. Alors vous avez, on en a déjà parlé, il y a une actualité annoncée, ce sont les 40 ans de l'ESAT de l'Arme. Dites-nous quand ça va être inauguré.
Alors les 40 ans, ça va être commémoré. Les 40 ans de l'ESAT de l'Arme vont commémorer vendredi. Hein. 40 ans, c'est le bel âge. Hein. C'est fondé en 1983 par un médecin psychiatre qui était à l'hôpital de Bonne, de professeur Marc Perron. Hein. Et donc l'ESAT, c'était aussi une alternative aux fermetures de lits en 1983 les hôpitaux psychiatriques. Que faire des personnes qui sortaient et d'où l'hôpital ne pouvait plus les accueillir. Et ben ça a été une des premières idées de faire ce qu'on appelait les CAT hors les murs, mmh, et puis d'ouvrir des activités. Et voilà, aujourd'hui, l'ESAT a 40 ans, on en est fiers. L'association l'ARME, hein, association avec dynamique, avec deux autres établissements, un service d'accompagnement à la vie sociale, qui est à Montigny, le SAVS Lielos, et puis on a ouvert, il y a un an maintenant, une résidence accueil à Argenteuil, cette résidence accueil qui porte le nom du professeur Marc Perron.
Très bien, très bien. Et si des particuliers ou des entreprises nous écoutent et veulent faire appel à vos services, que faut-il faire?
Le 01 34 18 97 97 qui est le numéro de téléphone du standard, et on vous orientera sur éventuellement vos besoins en espace vert, en restauration, en traiteur, parce qu'on fait aussi du traiteur, en multiservice, etc., etc. Et quelqu'un se déplacera, vous fera un devis comme une entreprise ordinaire. C'est transparent, ouais, transparent là-dessus. Je voulais simplement dire que les avantages aussi pour les entreprises entreprises, oui. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent réduire leurs contributions.
Oui, il y a des avoirs fiscaux.
Leurs contributions, oui, à AGFIP. Mmh. Et pour les particuliers, puisqu'on a une blanchisserie ouverte aux particuliers, une blanchisserie qui est ouverte depuis 2 ans, ben, c'est de pouvoir avoir une déduction fiscale.
Très bien.
Déduction fiscale, 50% de la facturation est déduite. C'est, voilà ce que permet le Code général des impôts.
Et peut-être aussi, vous disiez que vous aviez vous faites des travaux de jardinage.
Ah oui, travaux de jardinage, oui, également. Ouais.
Très bien, très bien.
Travaux de jardinage,
écoutez,
voilà.
Nous savons tout sur les ZAD de l'arme. Merci. Régis Franchetot d'avoir été avec nous ce matin pour ce témoignage. Et puis, happy 40 ans à les ZAD de l'arme.
Merci Jacqueline. Et puis, j'espère qu'on se verra, Jacqueline,
oui,
aux 40 ans pour couper le gâteau ensemble.
J'ai prévu de venir, absolument.
Merci
Régis. Alors, je propose qu'on fasse peut-être juste une petite pause pour que je donne la parole à Livia dans le prolongement de Régis.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin nous parlons de ces acteurs qui essaient de faire que l'économie soit plus équitable. À mes côtés, donc Régis Franchetot et Livia Valin qui accompagne Régis.
C'est ça.
Donc Livia, vous êtes étudiante, hein, je l'ai dit, en deuxième année d'anglais à Cergy-Pontoise.
Littérature anglaise, oui.
C'est ça. Et donc aujourd'hui, vous êtes jeune volontaire dans le service civique. Alors expliquez-nous qu'est cette fonction.
Coup, oui, je suis bénévole du service civique, du coup à l'ESAT de l'Arme. Mmh. Alors ce que je fais en gros, c'est de la réinsertion au niveau de la citoyenneté par rapport aux travailleurs. Donc c'est leur expliquer des fois ou parler, discuter de tout ce qui est au niveau du respect, donc le respect mutuel au travail, etc. Donc là par exemple, j'ai mené un projet de groupe où tous les travailleurs en fait passent et on discute avec des supports, des quiz, etc. On discute par rapport au respect. Leur place par rapport à tout ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas au courant de leurs droits, qui pensent ne pas être
légitime,
c'est ouais, ça, merci, ouais, au même titre que nous, alors qu'ils le sont. Et c'est important de leur rappeler aussi qu'ils ont des droits, des devoirs comme tout le monde, et qu'il faut en profiter.
Voilà. Donc vous intervenez plusieurs fois par semaine, comment c'est, le rythme c'est quoi?
Alors, je suis en contrat de 24 heures.
Oui.
Alors, en période de cours, du coup, j'interviens le mercredi et le vendredi. Et sinon, après, je reste la semaine quand j'ai pas cours.
Très bien. Et alors, les personnes qui viennent à ces cours, sont elles-mêmes volontaires ou il y a une obligation de participer?
Alors, la première séance est obligatoire pour tout le monde. C'est ce qu'on avait mis en place en réunion institutionnelle avec eux. Toute l'équipe, donc administrative, éducative, etc. Et la deuxième séance, par contre, c'est plus sur le bénévolat et c'est pour, ça leur permet de produire une définition propre à eux-mêmes du respect et pourquoi pas de produire un support créatif, donc une vidéo, une affiche, une chanson, n'importe quoi sur leur base, sur leur volontariat eux, de ce qu'ils ont envie de produire et
pour
les permettre de s'exprimer.
C'est voilà. Ça, puis avoir une vraie visibilité.
C'est ça, oui.
Et vous-même, Livia, comment êtes-vous venue à ce volontariat?
Alors, pour moi, les ZAD, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler par le biais de mon entourage, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée, etc. Parce que avant, en fait, on n'entend pas parler d'un ESAT. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est qu'est-ce que c'est? Et puis, on a ce rapport à mais c'est des personnes handicapées, ils sont folles, ou enfin, on les met de côté totalement.
Oui, c'est ce qu'on disait toujours.
Exactement,
un peu, ces a priori.
Oui. Et en fait, d'être à leur côté, eh ben, on se rend compte que c'est super humain comme expérience, on apprend beaucoup de choses et ça nous touche. Et moi, je trouvais ça important de pouvoir être à leur côté, de pouvoir leur aider, leur apporter quelque chose en tant qu'étudiante, de pouvoir aider à mon niveau, en fait.
Oui, oui, voilà. Très bien. Écoutez, oui, je le disais tout à l'heure, un véritable enrichissement réciproque. Mmh. Ouais, très bien. Félicitations, Livia Valin. Et puis, vous avez une belle recrue, Régis, hein, à vos côtés. Donc, félicitations pour votre engagement.
Merci.
Et vos prochains projets, Livia?
Alors là, je m'occupe actuellement d'un dossier pour la médaille du travail Parce qu'il y a un travailleur, ça fait 40 ans qu'il est à l'ESAD, donc depuis l'ouverture presque.
Très bien.
Et du coup, on s'occupe de ça pour pouvoir qu'il puisse recevoir la médaille du travail Grand Or. Donc ça me tient à cœur aussi comme projet, parce que c'est des choses, ils n'y pensent pas forcément, et c'est important de montrer qu'ils ont
droit. Oui, qu'ils ont aussi droit à une vraie reconnaissance
ça,
officielle. Régis Franchot.
Oui, juste pour reprendre ce que dit Livia pour la médaille du travail Grand Or d'un travailleur handicapé qui a passé 40 ans dans l'ESAT, et ça sera commémoré lors des 40 ans de l'ESAT, symboliquement. Voilà. Et donc là, on retrouve justement dans cette citoyenneté de vivre auprès des travailleurs et qui ont passé 40 ans. Dans cet établissement, ce qui est important d'honorer et de distinguer.
Oui, comme dans n'importe quelle entreprise.
Comme dans n'importe quelle
absolument.
Entreprise, c'est important de
très bien.
Dire ça.
Merci beaucoup, Régis. Merci, Livia. Et puis, bravo encore pour votre engagement.
Merci beaucoup.
Voilà, on marque une vraie pause et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Ces mauvaises nouvelles qui se répètent.
Ces horreurs qui tapent à nos portes sans cesse. Cette boule au ventre qui nous empêche de vivre, oui, comme on le souhaite.
Nous, on fait le show, avec le visage ensoleillé. On fait le show, main dans la main pour faire rêver. Nous, on fait le show, avec le visage ensoleillé.
Pour faire briller ce ciel si gris dans ton regard.
Les Enfoirés sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct, une émission de plus en plus suivie, même à l'international. Et ce matin, entraide et solidarité économique sont les thèmes de l'émission. Avec moi dans le studio, Régis Franchetot, directeur de l'ESAD de Larmes, qui fête dans quelques jours ses 40 ans. Livia Valin, étudiante en anglais à l'université de Cergy-Pontoise, jeune volontaire de service civique qui a intégré l'ESAD de Larmes. Angélique Godet, fondatrice et dirigeante de Cosmétange, une entreprise qui produit notamment des savons saponifiés à froid à base d'eau thermale d'Enghien-les-Bains. Et Delphine Gray, productrice et gérante de Burnout Prod, spécialisée dans les vidéos et photos, avec nous ce matin pour nous parler des galères financières des jeunes athlètes en vue des JO 2024. Angélique Godet, donc je m'adresse à vous. Avant de présenter Cosmétange, Angélique, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours académique qui est assez impressionnant?
Oui, tout à fait. J'ai effectivement eu un parcours très axé biochimie, donc ce qui me permet d'avoir la capacité de former le personnel sur la savonnerie. Mm-hmm. Donc j'ai fait une licence de biochimie, ensuite un master à Paris 7 de biochimie mention infectiologie, suivi d'un master 2 de virologie fondamentale au cours Pasteur. Et j'ai eu la chance de faire une thèse à l'Institut Pasteur sur le VIH, donc très axé biochimie dans des interactions protéines-protéines, protéines virales, protéines cellulaires. Mmh. Et ensuite, j'ai été attachée temporaire enseignement et recherche à l'Université Pierre et Marie Curie, ce qui m'a permis d'avoir une charge d'enseignement de 200 heures devant étudiants par an. Donc, et j'ai continué jusqu'à un accident de la vie à la Pitié-Salpêtrière, donc dans le service virologie dirigé par le professeur Henri Agut. Et j'ai dû arrêter le travail. Je suis passée par 5 ans d'hôpital de jour. Et ça a été très difficile. Au début des soins, il n'était pas question que je puisse retravailler un jour.
Ah oui.
Donc voilà, j'ai la grande chance d'avoir eu beaucoup de personnes ressources autour de moi. Mmh. Qui m'ont permis une reconstruction et la possibilité de fonder Cosmétange.
Très bien. Oui, parce que donc aujourd'hui vous êtes reconnue handicapée, mais un handicap invisible.
Hein. Tout à fait.
C'est,
oui.
On n'en a pas parlé des handicaps invisibles avec Monsieur Franchetot, mais voilà, c'est une réalité.
Oui, c'est une réalité. J'ai un mari merveilleux qui est vraiment au soutien tous les jours. Il gère énormément de choses pour me permettre justement de retrouver une capacité d'expression à travers la fondation de Cosmétange.
Alors, pourquoi cette volonté de vouloir ou comment est né Cosmétange?
Alors, au tout début, ça a été la redécouverte de la saponification à froid dans une association, Cop Les Bains. Mmh. Et puis, je me suis dit, bah oui, mais en fait, on peut faire aussi son shampoing solide, on peut aller vers des cosmétiques plus sains pour ma famille, pour mes proches. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais en fait, ils sont vraiment très bien tes cosmétiques, tu devrais essayer peut-être de faire une micro-entreprise, d'aller un petit peu plus loin. Et la micro-entreprise a fonctionné et j'ai eu envie du coup de retravailler dans un milieu professionnel,
loin.
Voilà,
ouais.
D'aller plus loin, de retrouver des collègues de travail. Et donc j'ai fondé la SARL Cosmétange. Donc la SARL engage principalement du personnel en situation de handicap. On fait partie de l'économie sociale et solidaire.
Oui, également, oui.
Voilà, donc à l'heure actuelle, je travaille avec une jeune fille en situation de trisomie, un jeune homme neuroatypique, donc on parlait dans le temps d'autisme. Donc le binôme Giovanna et Alexandre fonctionne très très bien. Ils sont très complices tous les deux. Ils ont réussi vraiment à trouver un mode de fonctionnement qui leur est propre. Et c'est vrai que c'est très beau à voir.
Ouais, ouais.
On accueille aussi le mardi après-midi avec l'entreprise Sanea qui a des éducateurs spécialisés. Et donc les éducateurs viennent, deux éducateurs avec deux jeunes en situation de handicap, donc un autisme, dont un autisme avec mutisme. Donc ils viennent sur la structure pour découvrir le monde du travail dans un contexte avec peu de personnes. Donc, on multiplie les accueils.
Pour ne pas être effrayé et puis
exactement,
voilà.
Exactement, oui, de prendre leur marque. C'est au début, il est resté une demi-heure juste pour voir. Puis bon, on a les équipements de protection individuelle pour le laboratoire parce qu'on est un laboratoire cosmétique. Donc, ce sont des équipements qui sont quand même assez lourds à porter. Donc, il faut une certaine rigueur dans la tenue des équipements. Et on a la chance d'avoir finalement une atmosphère de travail qui permet de tenir ces équipements. C'est-à-dire on organise des pauses, on est vraiment dans la didactique, il y a des affichages avec des images qui permettent de savoir dans quel ordre les mettre, dans quel ordre les retirer. Donc on a pu passer la certification ISO 22716 de Bureau Veritas.
Bravo.
Merci, qui est une certification exigeante sur les bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques. Donc, pour une jeune entreprise de moins d'un an avec du personnel en situation de handicap cognitif, c'est un réel succès.
Une vraie reconnaissance aussi. Vous êtes situé où Cosmétange est situé où?
Alors, on a la très grande chance d'avoir bénéficié du soutien du diocèse de Pontoise grâce au tiers-lieu Saint-Paul des Nations, fondé par le père Alexandre de Bussy. Donc c'est réellement une ouverture sur le monde qui est proposée par Saint-Paul des Nations. Et ils ont eu la possibilité de nous confier des locaux. Donc ces locaux justement sont occupés à l'heure actuelle au 26 rue de Malville, donc dans le presbytère.
D'accord.
Et on a pu faire des travaux
Malville
d'aménagement
à Enghien-les-Bains,
oui, merci. Donc à Enghien-les-Bains, et on a pu faire des travaux de mise aux normes pour que le laboratoire a été vraiment conçu pour répondre aux exigences de la norme.
C'est ça, de la norme, et puis on disait la mise en conformité pour les travailleurs handicapés également.
Tout à fait, oui, on a des dispositifs qui ont été mis en place pour penser justement la prévention du risque chimique, et on a aussi la médiation d'adapter les horaires de travail en fonction des particularités de chacun.
Et comment cette idée d'utiliser l'eau thermale vous est-elle venue ?
Alors, ça a été... en fait, j'habite dans la rue de Malville. Et donc, tous les matins, pour conduire ma fille à l'école, je passais devant les thermes. Et je me disais, mais ce serait tellement bien de pouvoir utiliser l'eau thermale pour vérifier s'il y a bien des effets qu'on peut retrouver anti-inflammatoires ou assainissants sur les produits cosmétiques. Et donc, on a reçu une bienveillance et un soutien énorme de la mairie d'Enghien-les-Bains pour justement établir une convention d'utilisation de l'eau thermale qui a été faite qui a été votée au conseil municipal et qui nous permet d'avoir cet accès à l'eau thermale pour nos savons et nos shampoings solides.
C'est ça, vous avez une autorisation d'exploitation qui est renouvelable.
Alors, d'utilisation,
oui.
Donc elle est renouvelable. Donc là, la convention actuelle porte sur un an, renouvelable un an. Et je pense que ça va se retrouver renouvelé sans problème, parce que les produits ont effectivement des caractéristiques apaisantes et assainissantes.
Des vrais résultats.
Oui.
Et au départ, pour vous installer, parce que quand même la cosmétique, c'est un déjà il y a pas mal de recherche et développement, même si j'imagine que c'est vous qui l'avez faite.
Oui.
Il faut des moyens financiers. Comment avez-vous procédé?
Oui. Donc en fait, j'ai pu monter un dossier pour Initiative 95.
Ah oui.
Et ils ont été vraiment super. Ils ont vraiment été au soutien, parce que du fait de mon handicap, c'était très compliqué d'obtenir des prêts bancaires. Donc ils se sont portés caution au niveau du prêt bancaire. Ils ont communiqué avec la banque. Ils ont fait deux prêts d'honneur pour nous permettre de monter l'entreprise. Et c'est grâce à toutes ces aides, entre le fait d'avoir le logement grâce à Saint-Paul des Nations, plus les prêts qui ont pu être obtenus, nous avons pu embaucher le personnel dès le mois de septembre.
Oui, initiatives avec lesquelles IDFM Radio est partenaire. Hein, ce sont des gens merveilleux aussi, vous le dites. Je confirme, hein, d'une qui aide beaucoup beaucoup d'entreprises sur le Val d'Oise et maintenant le 78. Angélique Godet, comment se passe l'intégration de votre personnel chez Cosmétanges?
Alors, l'intégration, elle se fait d'abord par une période d'observation.
Mmh. Oui, donc, ce que vous nous disiez avec le jeune.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a une étape juste d'observation, voire de prise de photos avec les téléphones, des choses comme ça, où ils ne touchent à rien, où ils sont vraiment à s'imprégner de l'atmosphère professionnelle. Ensuite, il y a une étape où ils commencent à faire des petites missions. Donc, ça va être par exemple sur du conditionnement, sur la pose d'étiquettes de numéro de l'eau. Ça va être des actions assez simples pour la mise en confiance, pour avoir un réel succès. Et ensuite, on essaie au maximum d'aller vers l'autonomie. Donc, à l'heure actuelle, Giovanna, par exemple, ce qu'elle adore faire, c'est découper les savons.
Oui.
Donc progressivement, on peut laisser Giovanna placer sur la guitare de découpe. Donc on appelle ça une guitare de découpe parce que les cordes sont tendues au son. Mmh. Et lorsque le savon est fini d'être découpé, on a même une petite mélodie qu'on peut entendre. Ah oui, c'est très poétique bien. Et ça,
et c'est
ça
même apaisant,
énormément.
Probablement.
C'est apaisant, tout à fait. Mmh. Donc c'est vrai que on a notamment des gestuelles répétées qui vont permettre d'apporter cet apaisement. On a aussi la possibilité, en termes d'autonomie, de présenter notamment le binôme Alexandre et Giovanna pour le shampoing solide. Ils sont quasiment intégralement autonomes. J'ai toujours une oreille qui traîne à savoir si tout se passe bien, si ça se présente bien. Et effectivement, ça se présente très bien. Donc on peut les laisser progressivement.
Ça, vous pouvez les rendre autonomes.
Tout à fait.
Et donc aujourd'hui, vous faites le Cosmétanges est rentable?
Alors aujourd'hui, non, pas encore. Justement, on va lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Mmh. Pour permettre de lancer aussi une nouvelle gamme au beurre de cacao pour diversifier les protocoles. Donc diversifier les protocoles, c'est aussi important pour la qualité de l'accueil que l'on peut faire pour notre personnel, parce que ça veut dire diversifier les possibilités de tâches à effectuer et leur permettre de trouver une tâche qui leur plaît vraiment, sur laquelle ils peuvent gagner en autonomie.
Très bien.
Donc, j'espère que la campagne sera vraiment un succès et que, surtout, que beaucoup de gens pourront venir aussi découvrir nos produits sur notre site internet. Donc, www.cosmetanges.fr, et nous soutenir aussi par leurs achats.
Très bien. Je crois que c'est Rémi qui va vous aider à créer ce site de e-commerce.
Oui, le site de e-commerce existe déjà,
mais effectivement,
on va créer de la visibilité pour du marketing digital.
Alors, ce qui m'a, parce qu'on se connaît depuis très peu de temps, contrairement avec Régis, mais j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de vous faire venir ce matin parce que je recevais Régis Franchetot. Pourquoi vous-même n'avez-vous pas fait ce choix d'avoir recours à un ESAT?
Alors, c'était aussi le fait de vouloir créer une atmosphère vraiment familiale, que ça soit pas une grosse structure, mais vraiment une petite structure pour répondre aux besoins de chacun. Et c'est vrai que c'était ce qui m'avait semblé aussi évident dans le fait d'accueillir le plus possible de stagiaires, dans la mesure où on réintègre aussi une normalité, un milieu ordinaire de travail, avec également la possibilité de démystifier le handicap, c'est-à-dire de permettre à des jeunes de venir voir comment le handicap peut être dépassé, comment on peut s'adapter à ces situations-là et que chacun puisse être fier du travail accompli.
Je retrouve la même philosophie qu'avec Régis Franchetot. Merci infiniment, Angélique, pour cette passionnante aventure. On vous souhaite le meilleur, bien sûr.
Merci
pour la
beaucoup.
Suite. Vous nous tiendrez informés de votre campagne de financement et puis de la sortie de la nouvelle gamme au beurre de cacao. J'ai oublié de dire que c'était en collaboration avec Févier d'Or, Nadine Abondo, que nous connaissons aussi très bien chez IDFM Radio. Merci infiniment, Angélique Godet et puis Rémi d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous de nous avoir accueillis et d'offrir cet espace de parole.
Je vous en prie. Nouvelle pause avant d'enchaîner dans quelques minutes avec Delphine Gray. À tout de suite.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît.
Mais j'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, mon vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique.
J'ai un an fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins parfaits.
Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique.
J'ai encore perdu ton amour, c'est vrai. Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales.
C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je veux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Nous venons d'écouter William Scheller. Dernière partie pour l'économie en direct consacrée ce matin à l'entraide et la solidarité dans le monde économique. Avec moi dans le studio, Régis Franchetot, directeur de l'ESAT de l'Arme. Livia Valin, étudiante à l'université de Cergy-Pontoise, jeune volontaire de service civique à l'ESAT de l'Arme. Angélique Godet, fondatrice et dirigeante de Cosmétange, et Delphine Gray, productrice et gérante de Burnout Prod, spécialisée dans les vidéos et photos. Delphine, merci d'être avec nous ce matin.
Merci de me recevoir.
Alors, la logique financière du monde économique est assez impitoyable dans le milieu sportif, surtout pour les jeunes athlètes, car il ne suffit pas d'être performant pour bien gagner sa vie.
Tout à fait.
C'est
ce que j'ai découvert parce que contrairement à Régis et à Angélique, je ne fais pas du tout partie à la base de l'économie solidaire.
Oui, oui.
C'est vraiment le hasard.
C'est d'autant plus magnifique ce que vous faites.
Je ne suis même pas sportive moi-même, mais c'est vrai que on a eu la chance avec Paul, mon associé, d'avoir cette commande du département du Val d'Oise, de faire connaître à tous nos sportifs valdoisiens, et on a eu cette commande de 8 portraits d'athlètes de très haut niveau. Et on les a rencontrés, évidemment. C'est l'occasion de passer pas mal de temps avec eux, au moins une journée complète de leur emploi du temps très très chargé et qui force l'admiration, hein, quel qu'il soit. Là, je vais parler de trois d'entre eux, mais ils sont tous admirables.
Oui.
Ces trois-là nous ont particulièrement touchés parce que effectivement, ils rencontrent des difficultés. Alors voilà, ils sont pas à plaindre non plus, mais c'est vrai que l'aide publique est merveilleuse et ils en sont ravis, mais elle suffit pas toujours à les soutenir jusqu'au bout des JO. Et il y a encore un an et demi à tenir avec beaucoup de déplacements. D'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup ça qui est difficile, c'est que les déplacements sont à leur charge et quand ils vont à des championnats d'Europe, des championnats du monde, ben il y a forcément des coûts. Et c'est vrai que ces trois sportifs-là viennent de milieux qui sont quand même modestes. Ils n'ont pas toujours eu un parcours très facile et c'est peut-être ça qui a forcé d'autant plus mon admiration.
C'est ça. Vous avez vraiment eu envie de les aider.
Oui.
Alors, moi, je voudrais juste rappeler qu'on est à environ J-500 des JO 2024, que tous les chantiers avancent doucement mais sûrement, et que Emmanuel Macron voudrait que la France soit dans le top 5 des médailles. Or, comme vous le dites, certains athlètes de haut niveau doivent conjuguer performance et précarité. Alors, j'ai vu quand même que l'Agence nationale du sport tente de ne laisser aucun d'entre eux sur le, enfin, livré à lui-même.
Non, je pense pas qu'il. Alors, je connais pas très très bien. Hein. Je suis pas du tout une spécialiste du sport et du fonctionnement, voilà, et des ficelles financières du sport. Comme je le répète, hein, ils sont pas du tout, dans des situations. Oui, dramatique, mais ils ont quand même besoin de soutien. Ils sont notamment, pour certains d'entre eux, obligés de cumuler un emploi. Je pense à Aurélien Quignon qui travaille dans notre beau centre sportif du CDFAS d'Aubonne et qui garde la nuit le stade et qui entraîne des jeunes et qui doit cumuler ces horaires là et aussi un travail de jardinier là-bas avec ses entraînements personnels. Donc ils y arrivent très bien et faut vraiment les suivre, hein. Une journée avec ces sportifs là, c'est vraiment pour nous qui sommes
Coup, vous avez fait du sport.
On a fait du sport. On a plongé au fond des piscines avec eux à 6h du matin. On a arpenté les stades. C'était passionnant. On a beaucoup ri aussi avec eux parce que c'est aussi trois personnalités incroyables.
Je vous laisse nous les présenter, ouais. Delphine.
Alors il y a Badre Touzi qui lui est en catégorie handi, en lancer de poids. Il était déjà à la base athlète, notamment en natation, en athlétisme. Alors les gars, si je me trompe, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que je connais pas non plus vos carrières par cœur. Je vous salue en tout cas. Et à 18 ans, il a été renversé par une voiture. Et sa thérapie, ça a été de revenir sur les podiums et de reprendre le sport. Et il prépare les JO 2024 en lancer de poids avec ce handicap qu'il a maintenant à la jambe, une paralysie partielle de sa jambe gauche, qui ne l'empêche pas d'être plein d'énergie. C'est un peu un grand géant, on dirait un peu un néo-zélandais qui est très très communicatif et absolument absolument délicieux, charmant et très aussi très autonome, hein. Il fait ses entraînements tout seul et il se débrouille.
Il se bat pour y arriver.
Voilà, il se bat, il économise pour partir en Égypte faire un championnat de ci, de ça. Donc il est vraiment très très touchant.
Je vois qu'il il est 14e mondial. Donc alors évidemment moi non plus je ne sais pas ce que ça représente, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans cette discipline.
Je sais pas si c'est lui qui est 14e mondial. 14e mondial, je sais que ça c'est Aurélien. Je sais pas si
Aurélien. Oui, je parlais d'Aurélien.
Ah, oui,
pardon.
D'accord.
Pardon.
Moi,
oui, excusez-moi. Ah oui, vous parliez de Bad. Pardon. Oui. Excusez-moi. J'ai sauté une ligne.
Ouais, ils sont tous
Mais en tout cas, ils ont tous ils ont fait des championnats tous et avec des médailles. Enfin, alors si on revient à Bad, il a été médaille d'or en en 2022, médaille de bronze en 2021. Il a fait les championnats du monde en 2019. Donc voilà, des belles performances.
Il est actuellement champion de France. Hein, il a eu la médaille d'or aux championnats de France en salle en 2022. Et puis il a eu en 2016, il a été médaille d'argent. Et pour Rio, aux championnats d'Europe, il avait la 8e place. Donc ils ont quand même voilà des
oui,
niveaux.
Oui, oui, plutôt on peut dire que ce sont des athlètes de haut niveau.
Exactement.
Donc c'est Aurélien, oui pardon, Aurélien qui fait de la marche athlétique et qui est 14e mondial. Donc,
exactement, et il a coutume de dire que déjà c'est vraiment génial et formidable, c'est ça que j'aime chez eux aussi, c'est cette espèce de modestie qu'ils ont de se dire, mais c'est déjà génial de se dire que devant nous, il n'y a plus que 13 personnes. Donc déjà, pour lui, c'est déjà, ce championnat-là, il est déjà gagné c'est parce ça, qu'il a rempli son contrat. Lui aussi, il a pas une histoire facile. J'ai cru comprendre, voilà, modestement, qu'il avait grandi en famille d'accueil. Et je pense que c'est pas forcément simple quand on n'a pas le soutien direct, voilà, d'une famille de sportifs déjà ou de gens qui sont, voilà, très, très, qui peuvent aider plus facilement. Donc c'est vraiment un self-made man et il s'entraîne voilà comme un fou seul. Son gros problème aussi, c'est que ce sport et là vraiment je le dis, c'est un sport qui n'est pas qui ne fait pas l'une enfin qui n'est pas très populaire cette marche athlétique.
Qui fait pas l'unanimité.
Ben c'est ça, c'est un sport qui est plutôt confidentiel et si on n'est pas dans l'athlétisme, il a pas forcément la visibilité qu'il mérite alors que c'est un sport qui est c'est un vrai sport. Et d'endurance, et puis c'est surtout un sport propre, c'est un sport de nature, c'est quelqu'un qui va sans arrêt s'entraîner dans la forêt, et voilà, qui a de très très belles valeurs humaines, lui aussi. Bon, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour Aurélien et pour ce qu'il fait. Et je pense, ben, notamment pour lui, je pense que le soutien d'entreprises justement qui sont un peu dans des métiers de l'environnement et dans des métiers de la nature, ça serait formidable.
Oui, ce serait une belle visibilité pour elle.
Voilà. Et moi, ce que m'inspire Badr, ben, avec son handicap, ben, c'est forcément l'aide d'entreprises justement qui sont dans la solidarité. Voilà, je pense à Régis notamment.
Oui. Voilà, c'est vrai mot est passé.
Voilà, le mot est passé. C'est vrai qu'il force l'admiration parce que, justement, il a su dépasser son handicap. Il peut inspirer aussi d'autres gens qui sont atteints d'autres handicaps et leur montrer qu'on peut arriver au niveau des JO de cette façon-là. Et puis, le troisième, c'est Dylan Chelamoto, qui est peut-être le plus communicant des trois, qui est un jeune de Cergy et qui pratique, lui, le taekwondo. Et qui a un très très beau palmarès aussi. Je crois qu'ils sont de toute façon tous les trois champions de France.
Oui, je vois.
Ils ont tous battu, je crois, cette année là leur propre record. Donc ils ont vraiment explosé leur palmarès. Ça aussi, faut le dire. Hein, ils sont en pleine puissance là tous les trois. Et c'est le moment aussi de les soutenir pour ça, parce qu'ils vont ramener des médailles. En tout cas, moi j'y crois.
Oui.
Je crois à leur sélection déjà pour les JO. Dylan, il va être en concurrence avec un autre de son club, donc ils vont être deux. Il y en a forcément un des deux qui va partir à Paris 2024. Et voilà, il a été médaille de bronze au championnat d'Europe. Il est vice-champion du monde au championnat du monde junior. Il est vice-champion du monde militaire. Enfin, voilà, il a aussi un très très beau palmarès. Il est vraiment il est soutenu par le département. Il est aussi soutenu par la SNCF parce qu'il y a des dispositifs pour certaines grandes entreprises, leur garantissent en fait un emploi derrière. Donc ça, c'est l'aide que ce genre d'entreprise peut leur apporter. C'est les aider aussi à se reconvertir, parce qu'après les JO et après leur carrière, il faut qu'ils aient du soutien. Et puis voilà, il est très dynamique aussi, et leur engagement aussi en échange d'une aide. Alors l'aide, moi on ne sait pas la quantifier.
Oui.
Je dirais qu'en gros ils ont peut-être besoin de chacun, on en avait parlé ensemble tous les quatre, d'à peu près 15 000 euros jusqu'aux
JO. Pour arriver jusqu'aux JO.
Mais il faut pas que ce chiffre soit bloquant. Oui. Et s'il y a des entreprises qui ont envie de leur proposer 2 000, 3 000, 5 000 euros, eh ben évidemment que ça va les aider, et évidemment que ça va les faire avancer, et en échange ils ont beaucoup à offrir, notamment ils sont prêts à donner des droits d'image pour promouvoir des partenariats, ils sont prêts à faire des posts sur leurs réseaux sociaux, ils ont quand même tous les trois une certaine notoriété,
ils ont beaucoup de followers, donc voilà c'est un partenariat gagnant-gagnant.
Exactement, et puis surtout ils sont prêts à se déplacer, à venir faire des conférences, à partager des moments aussi dans les entreprises, à faire de l'initiation. Alors le lancer de poids, je suis pas sûre qu'on puisse le faire au sein d'une entreprise, mais le taekwondo et de l'initiation à la marche, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment trois personnalités vraiment étonnantes qui véhiculent chacun des valeurs absolument magnifiques, et je pense que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant.
Vous en parlez très très bien, Delphine, mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Vous lancez un appel, autant auprès des entreprises que des particuliers qui auraient envie de soutenir ces trois jeunes, puisque les finances se reposent uniquement sur les sponsors, les contrats d'image et puis ce qu'on appelle les prize money, c'est-à-dire remporter en compétition. Mais derrière, il y a toutes les qualifications à faire pour arriver au JO, donc beaucoup de déplacements, et c'est là où ils n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts.
Oui, tout à fait, parce que évidemment on parle beaucoup de Paris 2024, ils seront très fiers d'y participer et d'être à la maison. Mais avant, il y a plein d'autres compétitions qui vont mener jusque là et qui sont tout aussi importantes, des championnats d'Europe, des championnats du monde, et là aussi ils peuvent apporter une visibilité aux entreprises, notamment par les particuliers. J'y crois un peu moins, mais pourquoi pas, il peut y avoir aussi des mécènes qui ont envie à titre personnel d'aider des sportifs, mais je pense vraiment aux entreprises qui peuvent être fiers d'avoir leur logo sur le maillot d'un sportif lors d'un championnat du monde par exemple.
Bien sûr. Vous-même, vous allez les soutenir, je suppose, même financièrement, Burnout Prod.
Donc, alors, nous, on est toute petite structure, on est deux, et on a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Donc, moi, ce que je mets à leur disposition, c'est plus mes capacités de communicante. Et le fait, justement, qu'en tant que petite entrepreneuse seule, je suis amenée à aller vers d'autres entreprises et à réseauter, comme on dit, donc à rencontrer. C'est un peu comme ça qu'on s'était rencontrés aussi. On se voit à beaucoup de manifestations d'entrepreneurs. Donc c'est là que l'idée a germé de les faire connaître et de raconter leur histoire et d'essayer que des entreprises s'intéressent à eux et aient envie de porter leur couleur. Mais et puis surtout notre aide, c'est de faire leur portrait pour le département. C'est une grande fierté et on essaye de mettre ça en image cinématographique et de raconter leur histoire avec des images qui soient les plus belles et les plus touchantes possibles.
C'est l'occasion peut-être de vous demander vos dernières actualités. Il y a ce film sur ces athlètes.
Oui, alors ce sont 8 films en fait sur chaque athlète, parce que j'oublie pas les autres. On a de très très beaux athlètes. On a une Andy en natation qui s'appelle Solène Sage, qui force aussi elle aussi l'admiration. Et puis Ninon aussi en Ninon Chapelle en saut à la perche. Alors évidemment et aussi Océane Babel en tennis, mais ce sont des filles, peut-être c'est pour ça elles se débrouillent mieux. Et je les sens avec beaucoup plus de facilité à communiquer et à parler de leur sport. Les garçons, peut-être c'est ça, ont un peu plus de mal et ils sont à fond dans leur carrière et pas forcément dans la recherche de sponsors. Et c'est peut-être mon côté maman aussi qui ressort qui me donne envie de les aider. Après, pour l'actualité
de Burnout. Il y a un film de mémoire sur les transformations de Villiers-le-Bel.
Tout à fait, Villiers-le-Bel. Une très belle rencontre aussi avec l'équipe de Villiers-le-Bel, qui est une ville extrêmement dynamique sur le plan associatif, qui bouge beaucoup et qui est en pleine transformation de certains quartiers. Des quartiers qui étaient dits difficiles et qui vont être modifiés en éco-quartiers. Et on a la grande joie de les accompagner et de pouvoir filmer cette transformation pour en faire un film mémoire qui restera pour la ville. Et puis on accompagne aussi une très belle marque locale qui s'appelle Savary, les flans Savary.
Pour les gourmands
qui se régalent. On vient de démarrer un partenariat avec eux. On est très fiers d'accompagner une petite marque de terroir comme ça et qui fonctionne bien. Et puis toujours des clips, on continue, on aime beaucoup aussi l'actualité musicale, on continue d'accompagner des artistes du département et d'ailleurs. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui, c'est bien. Alors, je crois que Régis Franchetot voulait poser une question.
Oui, juste une question. Pourquoi Burnout Prod?
C'est la question que j'avais posée la première fois.
Ah oui. C'est intéressant parce qu'on est un peu dans la psychiatrie, là.
C'est une question qu'on nous pose souvent, en fait. Alors, je suis pas à l'origine du tout de ce nom. On était trois associés à l'origine. Et, Paul et Guillaume, qui sont fondateurs de l'entreprise, avaient chacun de leur côté, en tant que photographe et vidéaste, rencontré des difficultés à gérer tout seul leurs activités, et ils étaient un peu en burn-out l'un comme l'autre. Ils ont décidé justement de mutualiser leur savoir et leur matériel pour pouvoir avancer mieux et être mieux organisés, et du coup pour dédiaboliser, ils ont appelé l'entreprise comme ça. Et puis je crois que c'est aussi une façon de faire en sorte qu'on n'oublie pas notre
nom. Oui, c'est ça, c'est un nom en effet qui interpelle. Bien, merci Delphine d'avoir plaidé la cause de ces jeunes athlètes. Alors vous m'en avez cité, j'en ai retenu 6. Qui sont les... Alors j'ai Sania, Solène, Ninon, Océane. Il m'en manque un.
Alors il manque Axel.
D'accord.
Axel Raymond, qui est un nageur en eau libre. On n'a pas encore fait son portrait. C'est le dernier à venir. Voilà. Et puis ensuite, tout au long de l'année, je pense que vous verrez, notamment sur les réseaux sociaux du département. Voilà, ces portraits et ces petits films sur chacun d'entre eux.
En tout cas, bravo aussi d'avoir décroché cette commande du département. C'est une belle, c'est aussi une belle reconnaissance pour vous, pour Burnout Prod.
C'est un projet magnifique et dont on est très fiers.
Très bien, ben merci, et puis merci encore une fois d'avoir si bien défendu ces athlètes. On espère que votre message va passer et que voilà, il y aura des retours à la suite de cette émission. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher.
C'est gentil, mais en tout cas pour tous les chefs d'entreprise qui ont entendu ce message et qui veulent nous joindre, n'hésitez pas. C'est Burnout Prod, et c'est voilà, vous pouvez m'envoyer un mail à delphine@burnoutprod.com. Voilà.
Très bien, c'est noté, et c'est des coordonnées qui se retrouveront dans le podcast de l'émission. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, Francky, et puis après je donne la parole encore à mes invités pour un mot de conclusion. À tout de suite.
Serait tous un peu frère, le soleil d'or. Le soleil d'or, de l'or intelligent, le soleil d'or. La même couleur aux gens, gentiment. In the sun dance.
tout le monde s'aime, le soleil d'or.
Le soleil d'or.
Ce que désire se faire, qu'on serait tous un peu frère, le soleil d'or.
C'est l'économie en direct et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui pour moi était passionnante. J'espère que pour mes auditeurs et auditrices ça l'aura été aussi. Et avant de nous quitter, eh bien je redonne la parole à chacun d'entre eux. Donc Régis Franchetot, un mot avant de nous quitter.
Oui, merci Jacqueline. Je suis vraiment ému et vraiment enthousiasmé par ce que je viens de vivre ici, avec aussi les partenaires qui étaient à cette table. Vraiment de belles rencontres. Ça fait partie aussi justement de la vie de pouvoir se rencontrer sur des moments comme ça exclusifs. Oui. Et je crois que c'est ça aussi les ZAD, c'est un moment où on rencontre le handicap, où on rencontre aussi des personnes qui sont passionnées par leur métier, parce que moi j'ai des équipes qui sont passionnées et qui ont envie de transmettre aussi et d'aider les personnes en situation de handicap. Ceci dit, les personnes handicapées nous réjouissent aussi de leur passion et puis nous, voilà, on partage. Oui, je crois que c'est les ZAD, c'est un monde de partage et de solidarité et ça c'est des mots importants et qu'il faut pas oublier. Pas simplement que de l'économie, hein, faut faire de l'économie, oui, bien sûr, ça fait partie justement de la vie.
C'est ce qui nous fait
mais
vivre.
Mais le partage et la solidarité, je crois que c'est là les deux maîtres mots qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans la vie.
Très bien, voilà. Bah écoutez, oui, vous avez bien résumé l'activité de votre ESAT. Merci Régis Franchetot. Livia Valin, un petit mot de conclusion.
Alors moi j'aimerais juste passer un appel pour tous les jeunes qui écoutent actuellement la radio. Le service civique, c'est une vraie réelle opportunité en fait, de que on soit étudiant ou n'importe quelle situation, c'est une vraie opportunité d'avoir une situation de toucher un peu plus à tout, quelque chose humain. Donc il y en a des services civiques pour tout, donc dans le sport, là moi je fais du coup dans le médico-social, mais il y a vraiment dans tous les domaines et ça permet moi avant j'avais des jobs étudiants dans la grande distribution, c'est pas forcément passionnant et avec le service civique ça me permet d'avoir un revenu et d'avoir une expérience enrichissante et de profiter.
Une ouverture sur les autres. Totalement. Oui. Comment faut-il faire pour s'engager dans le service civique?
Alors, il y a une plateforme du gouvernement qui s'appelle servicecivique.gouv et il y a toutes les offres. Donc, vous pouvez rechercher par selon l'emploi.
Oui, ce qui vous correspond.
Voilà.
Oui.
Donc, votre situation aussi. Là où vous voulez chercher, le domaine, le lieu, etc. Et après, ça se passe, vous avez un rendez-vous avec un entretien, tout simplement, et voilà.
Pour connaître vos motivations,
exactement.
Et puis on décrète que vous êtes accepté, voilà. Vous avez un contrat.
Oui, il y a un contrat, il y a une rémunération, donc il y a une aide de l'État, et il y a aussi une rémunération par l'entreprise. Donc en tout, on touche à peu près 600 euros, on perçoit 600 euros et ça permet vraiment d'aider, du coup voilà, tout en ayant une expérience enrichissante.
Voilà, c'est ça, vous êtes aussi dans un contrat gagnant-gagnant.
C'est ça.
Merci beaucoup Olivia Valin, merci de nous avoir précisé ça. Angélique Godet, un mot de conclusion?
Alors, j'ai été ravie aussi de faire la connaissance des personnes présentes aujourd'hui à cette émission. Donc, c'est vrai que le milieu du sport, c'est un milieu qui m'était grandement inconnu. Et effectivement, je constate qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide. Et comme nous, à Cosmétange, j'espère que le relais pourra se faire et que les gens viendront sur le site web pour trouver aussi le soutien pour notre campagne de financement participatif, pour que cette belle aventure puisse continuer. Voilà.
On vous le souhaite, on vous le souhaite. Moi, je voudrais juste aussi faire un petit coucou à Catherine Poulain, si elle nous écoute, parce que c'est grâce à elle que nous avons été mises en relation. Catherine, qui est à l'association Élan, Lhan. Voilà, donc c'est important de la citer. Delphine Gray, un mot de conclusion.
Quelle fierté d'être là entourée de ces gens. Je me demande même si j'ai ma légitimité.
Ah, mais si, complètement.
Je suis dans l'entertainment.
À 100%.
Oui, je voulais juste lancer aussi un petit coucou à Nadine Abondo du Févier d'Or, qui est une très très belle entreprise qui porte les valeurs de l'inclusivité. Voilà, que j'ai vu hier et j'ai été dérangée pour lui acheter des chocolats en dernière minute.
Ces excellents chocolats.
Ces excellents chocolats. Et puis voilà, vous l'avez rappelé, Jacqueline, 500 jours avant les JO. S'il vous plaît, entrepreneurs du Val d'Oise, s'il vous plaît, chers amis, chers collègues, voilà, c'est votre occasion, c'est votre moment, voilà, d'avoir les valeurs du sport sur les maillots de ces trois champions-là. J'y crois, je suis convaincue qu'ils vont aller, ils vont être sélectionnés aux JO. C'est tous les trois des hommes formidables qui forcent l'admiration, et vous ne serez pas déçus si vous les aidez. Quel que soit le niveau d'aide que vous leur apportez, ils en ont vraiment besoin. C'est nos athlètes, notre département, et c'est maintenant qu'on doit tous se mobiliser pour les aider à aller plus facilement vers les Jeux Olympiques. Merci beaucoup.
Ben merci à vous, merci encore pour ce vibrant plaidoyer. Et nous, on va les suivre, ces athlètes, hein. On va les suivre de près maintenant qu'on les connaît bien. Merci Delphine Gray. Et alors voilà, merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre activité.
Merci, merci à vous de votre accueil.
Merci Régis. Merci Rémi aussi d'avoir été à nos côtés. Et puis, ben, je le répète, mais on vous souhaite le meilleur à chacun dans la poursuite de vos activités. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez pour votre fidélité. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Vendredi prochain, un nouveau numéro de l'économie en direct, mais ne brûlons pas les étapes. À vendredi, passez une belle semaine, prenez soin de vous et de vos proches.